Bonjour à toutes et à tous. Pour cette chronique du 10 mai, je vous parlerai de l'enlèvement du journaliste français Olivier Dubos au Mali, des activités suspectes du groupe Total en Birmanie, de la Colombie en proie aux violences après un projet de loi contesté sur la fiscalité, des affrontements entre Palestiniens et la police israélienne ce week-end, l'OMS, les USA et le Vatican unis pour la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid-19, de l'Union européenne qui prépare sa mue post-crise, de l'Espagne où la gauche a perdu une élection et une figure, à Jersey, le désarroi des pêcheurs français face à l'administration britannique. En France, le meurtre sauvage de Shaïnaz Bouta à Mérignac a fait la une de l'actualité, comme la mort du brigadier Éric Masson à Avignon mercredi. En politique, la droite se déchire, Éric Dupond-Moretti est candidat dans les Hauts-de-France. Et sur les terrains sportifs, le titre de Ligue 1 tend les bras à Lille. Lewis Hamilton creuse déjà l'écart sur son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas. Et pour finir, les triomphes de l'Allemande Alexander Zverev et de la Biélorusse Arina Sabalenka à Madrid. Le journaliste Olivier Dubois, journaliste français indépendant au Mali, enlevé par une filière d'Al-Qaïda. Âgé de 46 ans, cet habitué des reportages en zone de guerre avait disparu peu après son arrivée à Gao, dans le sud-est du pays, il y a un mois. Il envisageait de rencontrer l'un des lieutenants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Une rencontre refusée par nos confrères de Libération car jugée trop périlleuse. Dans une vidéo diffusée par sa ravisseur, Olivier Dubois apparaît nerveux mais en bonne santé, vêtu d'une djellaba blanche et assis en tailleur dans une tente. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national antiterroriste pour enlèvement en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Le journal Le Monde révèle le financement de la junte militaire birmane par le groupe pétrolier français Total. Le quotidien du soir a publié mardi 4 mai une enquête des journalistes Nabil Wakim et Julien Bouissou. Ils y révèlent l'existence de comptes offshore aux Bermudes rattachés à une compagnie publique exploitant un gisement gazier au large des côtes depuis 1998. Son principal bénéficiaire est la junte militaire birmane. Contacté par Libération, le président du directeur du Monde a confirmé que le groupe dirigé par Patrick Pouyanné avait retiré une campagne de publicité d'une valeur de 50 000 euros à la suite de ces révélations. 24 morts et 850 blessés, la Colombie s'enfonce dans une grave crise politique après un projet de réforme fiscale. Le président conservateur Iván Duque a retiré en urgence le texte. Il comptait étendre la TVA de nouveaux produits, taxer systématiquement les revenus à partir de 656 $ et revenir sur certains avantages fiscaux. La Colombie a perdu 6,8% de son PIB par rapport à 2019 et 42,8% de sa population vit sous le seuil de pauvreté, soit 15 points de plus qu'en 2015. En Israël, une semaine après la violente bousculade du Mont Meron qui a coûté la vie à 45 personnes, le pays est en proie à de nouvelles violences. Des heurts ont éclaté sur l'esplanade des mosquées, troisième leçon de l'islam, à Jérusalem-Est, en marge de la dernière grande prière avant la fin du Ramadan. Des échanges de projectiles et de tirs de balles en caoutchouc ont eu lieu entre la police et des ressortissants palestiniens. Le dernier bilan fait état de 205 blessés côté palestinien et 18 dans les rangs des forces de l'ordre. L'ONU a appelé au calme et s'est dit inquiète des prises de parole incendiaires de certains groupes radicaux. Santé sous l'impulsion de l'OMS et des États-Unis, le débat sur la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid-19 fait son chemin. Joe Biden a surpris son auditoire jeudi en se disant favorable à une levée des brevets, une idée soutenue par le pape François, mais accueillie froidement par les industriels américains et les dirigeants de l'Union européenne. Réunis en sommet à Porto, les 27 ont rétorqué en demandant à Joe Biden de suspendre l'interdiction d'exportation des vaccins et des matières premières nécessaires à leur fabrication. Au cours de ce même sommet, les dirigeants européens ont amorcé un virage social, mais avancent désunis. La réunion s'est terminée sans avancée majeure, mais les chefs d'État et de gouvernement ont signé une déclaration d'engagement dont le principal objectif chiffré est un taux d'emploi de 78% d'ici à 2030 dans l'Union européenne, contre 73,2% aujourd'hui. La présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le président de la République Emmanuel Macron ont mis l'accent sur les projets de directives et d'accords en gestation à Bruxelles, notamment sur la protection des employés des plateformes numériques et la hausse globale des salaires dans l'Union européenne. La gauche espagnole perd une élection et une de ses figures, le leader de Podemos, Pablo Iglesias, renonce à la vie politique. Co-fondateur du parti en 2014 et ancien ministre du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, le professeur de sciences politiques âgé de 42 ans a perdu face à la candidate du Parti populaire, la droite espagnole, la conservatrice Isabel Díaz Ayuso, également âgée de 42 ans. Son parti n'obtient que 10 sièges. 2 ans après le précédent scrutin, la droite a doublé son score et a obtenu 65 sièges sur les 136. Ils devront s'allier pour diriger la région et peuvent d'ores et déjà compter sur le soutien du parti d'extrême droite Vox et ses 13 élus. Pénalisés par le Brexit, les pêcheurs français manifestent en territoire anglais 4 mois après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les pêcheurs normands n'ont toujours pas reçu l'autorisation de travailler dans les eaux territoriales britanniques. Jeudi dernier, une cinquantaine de navires de pêche a tenté de bloquer l'entrée du port de Saint-Hélier sur l'île anglo-normande de Jersey. Le Premier ministre Boris Johnson a déployé deux navires de guerre tandis que la France a envoyé deux patrouilleurs en prévision d'une escalade des violences. Si l'incident s'est terminé sans aucune perte humaine, les tensions demeurent face au zèle de l'administration britannique. Dimanche, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a évoqué sur France 3 la possibilité d'une rupture d'approvisionnement de l'île en électricité. Toujours au Royaume-Uni, Boris Johnson se prépare à son nouveau bras de fer avec l'Écosse. Le parti indépendantiste de la Première ministre Nicola Sturgeon a remporté les législatives et se dit prêt à réclamer un nouveau référendum d'indépendance, pardon, au 10 Downing Street. Lors du référendum sur le Brexit en 2016, 62% des électeurs écossais avaient voté contre. En France, le mot-clé de l'actualité de la semaine est l'émoi. Tout d'abord avec l'assassinat sauvage de Shaïnès Bouta à Mérignac en Gironde. Mère de trois enfants, la jeune femme de 31 ans a été brûlée vive par son mari à proximité de son domicile. Déjà condamné pour des violences domestiques à deux reprises, l'homme lui a d'abord tiré deux balles de fusil dans les jambes avant de l'asperger d'essence et d'y mettre le feu. Âgé de 44 ans, il était sorti de prison en décembre après 9 mois d'emprisonnement. Malgré une interdiction de s'approcher de son ex-femme, il n'avait échappé à aucun voisin qui tournait dans le quartier selon les témoignages recueillis par France Info. Ce 39e féminicide de l'année a provoqué des roues politiques. Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa ont annoncé jeudi l'ouverture d'une mission d'inspection pour mettre en lumière d'éventuelles défaillances de la justice et de la police. Dans l'est de la France, 6 personnes soupçonnées d'être liées à une cellule terroriste néo-nazie ont été arrêtées mardi dernier dans le Doubs et le Bas-Rhin. Ce groupe baptisé Honneur et Nation est soupçonné d'avoir préparé un projet d'attentat baptisé Projet Alsace contre une loge maçonnique et le ministre de la Santé Olivier Véran. Après des perquisitions, 3 des membres ont été placés en garde à vue vendredi. Selon l'hebdomadaire Marianne, il s'agit du 6e attentat d'ultra-droite déjoué en France depuis 2017. L'enquête sur la mort du brigadier Éric Masson, 36 ans, mercredi à Avignon, alors qu'il intervenait sur un point de deal, a progressé. 4 hommes ont été interpellés tard dans la soirée de dimanche à un péage, alors qu'il tentait de fuir. Parmi eux, l'auteur présumé des coups de feu, son complice présumé, et le chauffeur du véhicule. Âgés d'une vingtaine d'années, ils sont connus pour trafic de stupéfiants. Ils risquent un minimum de 30 ans d'emprisonnement. À un peu plus d'un mois des élections régionales, la droite se déchire un peu plus en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Après le cafouillage engendré par l'alliance entre président de région sortant, le républicain Renaud Muselier et le Premier ministre Jean Castex, pour faire barrage au Rassemblement national emmené par Thierry Mariani, plusieurs figures ont démissionné face à l'intransigeance du parti Christian Jacob. Hubert Falco, maire de Toulon, deuxième ville du département, et le maire de Nice, Christian Estrosi, ont rendu leurs cartes. De son côté, LREM continue de pousser ses pions. Éric Dupond-Moretti sera candidat dans sa région natale des Hauts-de-France, mais pas comme tête de liste. L'ancien avocat star du barreau défiera Xavier Bertrand, président sortant, et Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais. Restons dans le Nord, mais cette fois sur le terrain sportif. Lille a fait un grand pas vers son 7e titre de champion de France de Ligue 1. Les joueurs de Christophe Galtier l'ont emporté 3-0 à Lens en ouverture de la 36e journée de Ligue 1 vendredi. Si Lyon a confirmé sa victoire contre Monaco en battant Lorient 4 buts à 1, les Monégas se sont employés pour conserver la 3e place grâce à un succès 1-0 à Reims. Paris, de son côté, a dévissé à Rennes. Les hommes de Mauricio Pochettino ont concédé un match nul un but partout. À 2 journées de la fin du championnat, ils se retrouvent avec un retard de 3 points sur Lille et respectivement 2 et 3 points d'avance sur Monaco et Lyon. L'avant-dernière journée de Ligue 1 se disputera en intégralité dimanche à 21h. Lyon sera à Nîmes, avant-dernier et en lutte pour le maintien. Paris recevra Reims, Lille défiera Saint-Étienne et Monaco jouera face à Rennes, toujours candidat à la Ligue Europa. En Formule 1, Lewis Hamilton a dû batailler pour remporter sa 98e victoire en Formule 1 après avoir décroché sa centième pole position samedi matin. L'Anglais a devancé le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen et son coéquipier le Finlandais Valtteri Bottas. La première Ferrari, celle de Charles Leclerc, est quatrième. Esteban Ocon et Pierre Gasly sont 9e et 10e. Après 4 Grands Prix, Hamilton devance Verstappen de 14 points. Bottas compte déjà 47 points de retard. Il est 3e. La prochaine course aura lieu sur le mythique tracé urbain de Monaco le 23 mai. Pour terminer, un mot des circuits masculins et féminins de tennis. À 2 semaines de Roland-Garros, les joueurs et les joueuses ont disputé le Masters 1000 de Madrid. Après avoir dominé le maître des lieux Rafael Nadal en quart de finale, l'Allemand Alexander Zverev a remporté son 15e titre ATP en dominant le 10e mondial, l'Italien Matteo Berrettini, sur le score de 6-7, 6-4, 6-3. C'est son 3e titre dans cette catégorie après Madrid et Rome en 2018. Chez les filles, le titre a été remporté par la Biélorusse Arina Sabalenka, 23 ans, face à l'Australienne Ashleigh Barty, numéro 1 mondial, sur le score de 6-0, 3-6, 6-4. Au classement, elle passe du 7e rang au 4e. Alexander Zverev ne bouge pas de son 6e rang, tandis que Matteo Berrettini progresse d'une place. Il dispute cette semaine le tournoi de sa ville natale, le Masters 1000 de Rome. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain pour une nouvelle chronique.